Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM.
Bonjour.
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 Ce matin, on est en studio avec Jo, Céline, Anaïs... Et les Power Rangers.
Avec Maë qui colorie les Power Rangers.
Et avec Gaëlle, bien sûr.
Gaëlle, toujours là, à la
Merci.
Technique.
Alors, aujourd'hui, une petite traversée. Et donc, c'est moi qui vais raconter l'intro. Alors, c'est parti. Il y en a qui en manquent et il y en a qui en souffrent. On parle de solitude, peut-être que je le dis déjà. C'est pas un jeu d'une devinette.
Un jeu de devinette aujourd'hui.
Il y en a qui en ont trop et d'autres pas assez. C'est à la fois un sentiment, un mot qui décrit une situation, un état. Dans notre civilisation, basée sur les rapports d'oppression et des modes de vie nocifs, ça devient un problème social. On va parler de solitude et donc de lien. La solitude, c'est la question des relations. C'est un des boutons de notre table de mixage interne. En tant qu'animaux, que mammifères, vu qu'on est des êtres sociaux, c'est un endroit particulièrement sensible. Au début de notre vie, pour notre système nerveux, être seul signifie mourir. Et une des particularités de cette civilisation occidentale, c'est d'avoir découpé de façon mécanique l'appréhension du monde, d'en comprendre chaque bout séparément en niant l'existence des liens, des interdépendances, de la dimension systémique de la vie, des groupes et des écosystèmes. Cet appauvrissement de l'approche sensible et des intelligences complexes et entrelacées du monde est une des causes du carnage auquel nous sommes en train d'assister. La solitude, c'est un peu comme un bout de chaîne, un résultat. Et c'est devenu un problème de santé publique. Mais aussi, dans ce mot « solitude », quand il y a du choix, il y a aussi de la légèreté, du rêve, de la poésie. Il y a des idées de silence, de paix, de qualité, d'attention. On dirait que la solitude, ce serait un fleuve. Des fois tout lisse et stagnant, des fois archi tumultueux et dangereux, avec des rives sexy ou mystérieuses. Et des fois, pas de rives, alors qu'on aimerait bien accoster. Alors allons-y voguer.
Vous allez entendre un petit extrait que vous pouvez vous amuser à identifier. Et puis, vous pouvez nous envoyer une carte postale à Radio Royan, Office de Tourisme, Place de l'Église, 26190, Saint-Jean en Royan. Ou un mail, noctule au pluriel, @mailo.com, pour pas qu'on se sente seul.
Oui, écrivez-nous.
You have absolutely no messages. Not a single one. Not even from your mother.
Voilà le petit extrait.
J'adore découvrir ce genre de truc en studio.
À vous de deviner. Alors,
je veux jouer. Bon, ok, j'ai toute l'émission pour jouer.
Okay, ouais, voilà, tu cherches dans ta tête.
Tu dis pas aux auditeurs et aux auditrices, ça
okay,
se fait pas.
Okay.
On a deux jeux en cours du coup. Reconnaître le message et trouver le titre de l'émission au cours de l'émission.
Ah, ouais, j'en ai peut-être trouvé un, je vous le fais passer.
Ouais.
Du coup, moi j'allais vous faire un petit, voilà, le petit résumé d'un article. Enfin, non, c'est même pas un résumé, c'est un article que j'ai trouvé sur la radio-télévision belge francophone qui explique d'où vient le sentiment de solitude. C'est des neuroscientifiques de l'université de Dartmouth, aux États-Unis, qui ont étudié la structure cérébrale de 50 étudiants volontaires. Donc, ils ont étudié comment le cerveau interprète les informations liées aux interactions sociales. Donc, les participants de l'étude, dont les résultats sont détaillés dans The Journal of Neuroscience, ont accepté de se soumettre à un examen par scanner IRMF, image par résonance magnétique fonctionnelle. Juste avant, ces derniers ont été invités à désigner 5 personnes de leur entourage, puis à choisir 5 noms de personnes célèbres avec qui ils n'entretiennent aucune relation. Au cours de l'examen IRM, les volontaires ont dû émettre un jugement de valeur sur leurs proches et les personnes précédemment citées, notamment en évaluant leur caractère amical en se basant sur une échelle de 1 à 4, de pas du tout à beaucoup.
Beaucoup amis.
Beaucoup amicales, ouais, beaucoup amicaux. Non, je sais pas comment ça se dit. Ouais, ouais. En tout cas, qui sont très, des personnes très amicales ou des personnes pas du tout amicales. Les participants ont également appliqué ce système d'évaluation vis-à-vis de leur propre personnalité. Donc, les résultats de l'expérience ont montré que le cerveau était a priori capable de segmenter le nom des personnes citées selon 3 groupes bien distincts. Soi-même, le cercle de proches et les personnes étrangères. Donc là, en l'occurrence, c'est les célébrités. Selon les résultats obtenus au terme de l'expérience, plus les participants se sentaient proches d'une personne, plus leur cerveau parvenait à analyser cet individu d'une manière similaire à celle employée lorsqu'ils se représentent leur propre personnalité. Les personnes qui ont déclaré se sentir seules présentaient en revanche moins de similitudes neurales avec dans le cortex préfrontal médian, donc c'est la zone du cerveau associée au concept de soi. Donc cette notion de psychologie, elle désigne l'opinion qu'une personne nourrit à propos d'elle-même, qui est, il ne faut pas confondre avec l'estime de soi. Les scientifiques à l'origine de ces travaux en concluent que plus les gens... Alors eux, ils disent que plus les gens sont solitaires, mais moi je dirais pas tellement sont solitaires, mais plus les gens ont le sentiment de solitude, plus leur cerveau est susceptible de fonctionner différemment lorsqu'il s'agit de penser à eux-mêmes ou aux autres. Donc là, on a une citation. C'est presque comme si vous aviez une constellation spécifique d'activités neurales qui se déclenche lorsque vous pensez à vous. Quand vous pensez à vos amis, c'est en grande partie la même constellation qui est sollicitée. Mais si vous vous sentez seul, vous activez une constellation assez différente lorsque vous pensez aux autres que lorsque vous pensez à vous-même. C'est comme si la représentation de votre cerveau était plus déconnectée des autres, ce qui correspond à la solitude que les gens disent ressentir. Donc c'est Megan L. Meyer qui nous explique ça et elle est directrice du laboratoire de neurosciences sociales de Dartmouth et autrice principale de l'étude. Voilà.
Super. Eh bien, maintenant, nous allons écouter une petite chanson. Une petite chanson d'Aloïs Sauvage qui s'appelle « Soulage » et qui parle de quand on sort de la solitude, comme c'est bien quand c'était de la solitude subie.
Y'a pas si longtemps, c'était tout noir. Solo dans un monochrome de soulage. Tête dans le guidon, fonce dans le brouillard. Miroir, oh mon miroir, qu'est-ce que je fous là? Je glisse sur les blocs, j'fume que des prods où la vie me stresse. Faudrait que je trouve la méthode pour ne pas tout foutre en l'air. Faudrait que je rappelle mes potes, mais faut que je décolle dans mon business. Connais qu'une seule méthode, je dis je vais doucement, je cours quand même. En ce moment je suis prospère, ça fait du bien. Dans les affaires, je suis lié qu'à des gens de qualité. Se laisser flotter dans les hautes sphères, ça fait du bien. Chaque jour un nouveau rêve, une nouvelle ligne d'arrivée. Je côtoie le genre de loupard qu'on des pouvoirs, que c'est tout voir en rose. J'essaie d'avoir le courage de le vouloir pour moi. Y'a toujours quelque chose qui me fout l'âme dans le flou là. Je n'écoute pas grand chose quand les autres me saoulent avec leur vie et tout ça. Y'a pas si longtemps c'était tout noir. Solo dans un monochrome de soulage. Tête dans le guidon, fond dans le brouillard. Miroir ou mon miroir, qu'est-ce que je fous là? Y'a pas si longtemps c'était tout noir. Solo dans un monochrome de soulage. Tête dans le guidon, fonce dans le brouillard. Miroir, oh mon miroir, qu'est-ce que je fous là? Plus y'a de fou autour et plus je me sens dans mon élément. Manie le feu intérieur, c'est plus ou moins périlleux. Mais si tu fais ça bien, tu peux faire lever les gens. Les gens qui se mettent à nu pour mieux parler de nous, moi je trouve ça élégant. Les gens disent les sensibles, les gens qui s'émancipent, les gens qu'on plairait les gens. On se voit, on se reconnaît, on se parle de nos colères, on taffe, on crée des légendes. Des montagnes de problèmes, on en fait des golems, des armées de véhéments. On parle poème, campagne, bohème, magie des éléments. Des astres et de gare et des racines du ciel et de la course des éléphants. Sous la lumière lunaire, sur l'asphalte, on raille de déterre, on soulage là. On parle tout gain, tout avoir, on taffe très fort, faut tout faire pour que ça se passe. Y'a pas si longtemps, c'était tout noir. Solo dans un monochrome de soulage. Tête dans le guidon, fonce dans le brouillard.
Miroir, oh mon miroir, qu'est-ce que je fous là? Y'a pas si longtemps, c'était tout noir. Solo dans un monochrome de soulage. Tête dans le guidon, fonce dans le brouillard. Miroir, oh mon miroir, qu'est-ce que je fous là?
Voilà, Aloïs Sauvage.
Voilà, alors après ce morceau de musique, on va continuer avec les articles scientifiques. Du coup, c'est un article que j'ai trouvé sur Cairn d'Yvonne Castellan, qui est professeure honoraire en psychologie clinique, spécialiste de la famille et écoutante à l'EGPE, c'est l'école des grands-parents d'Europe. Voilà, c'est une association qui soutient les grands-parents et une des phrases un peu marquantes qu'elle a dit Yvonne Castellan et qui est restée sur Internet en tout cas. Il n'existe pas ou il existe un minimum de besoins, d'instincts ou de motivations innées. Tout est apprentissage, tout est éducation. Voilà. Du coup, elle a exploré le sentiment de solitude, Yvonne Castellan, avec une équipe. Ils ont interrogé en fait un échantillon de 145 sujets des deux sexes, mais avec une grosse majorité de femmes, et de 59 à 88 ans, donc plutôt âgées. Et ils ont analysé les effets de certaines variables dans l'expression du sentiment de solitude, et surtout la diversité des réponses ou solutions apportées aux souffrances ressenties. Donc je vais vous faire un gros résumé et puis je vais surtout vous lire la conclusion qui m'a semblé intéressante. Donc pour faire cette étude, ils ont posé la question très simple de « la solitude pour moi c'est » et qu'ils ont répété à 3 reprises. Donc une première lecture a dégagé 4 groupes de réponses. Alors un dixième des répondants vit la solitude comme un état de fait à subir. Après, il y a plus de 60% qui reconnaissent une souffrance, mais qui disent qu'on peut ou qu'on doit la prévoir, la minimiser ou la maîtriser dans une réaction aussi immédiate qu'énergique qui transcende les âges. Et puis, il y a un cinquième des répondants qui ont fait place à ce qui n'est plus une souffrance, mais une phase momentanée de leur vie, bonne et bénéfique, qui se répète selon un tempo propre à chacun, sur un rythme oscillant d'aller et retour, être seul, un moment heureux, récupération de soi... Voilà, ou alors être avec les autres. Enfin, pour 7 répondants, donc ça fait pas beaucoup, mais elles l'ont quand même noté parce qu'elles trouvaient ça important, la solitude est une conquête sur la dépendance et l'aliénation à l'autre. Conquête reconnue comme difficile, mais qui porte ses fruits dans une libération radicale et définitive. Donc ces éléments, ils ont donné lieu à 4 analyses thématiques. Il va y avoir une analyse sur la souffrance. Alors, dans ce grand groupe, elle a mis à la fois les gens... qui ont le sentiment de solitude et qui le subissent, et à la fois ceux qui le maîtrisent. Et puis après, il y a le deuxième groupe, ça va être plutôt ceux qui parlent de comment se défendre, comment se sortir de ce sentiment de solitude, réinvestissement sur soi-même, ou d'autres façons de se défendre, en fait. Ils disent que c'est la réaction majoritaire. Voilà. Et puis l'alternance, donc... dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui vont choisir la solitude comme un moment de repli, qui est une ressource plutôt pour justement pouvoir aller vers les autres et tout ça. Et enfin, les 7 derniers qui vont parler plutôt de conquête et qui assument pleinement la solitude, qui considèrent que c'est une conquête, quoi. Voilà. Du coup, la conclusion... Nous nous sommes avancés dans une forêt de contraintes, de toute évidence, et comme on pouvait s'y attendre, la perte, la rupture des liens sociaux, familiaux, amicaux et même professionnels, ont été invoqués en force et dans nos 4 groupes, même quand le regard de chacun portait une différence. Toutefois, l'éprouvée de la solitude a été aisément et richement évoquée, avec son cortège affectif, par celles et ceux rares qui disaient ne l'avoir pas connue et ne pas être en situation de privation de liens sociaux. Ce qui ne les a pas empêchés de développer une mobilisation préventive aussi vigoureuse et dans les mêmes termes que ceux que l'on peut appeler les affligés. et cette souffrance n'était pas pour eux inimaginable. Enfin, comme l'ont dit plusieurs d'entre eux, ce sentiment peut faire irruption, de façon aiguë, dans une situation sociale sans reproche. Quelqu'un, une femme de 71 ans, dit « c'est aussi être entouré d'amis et d'enfants, mais ne pas être intéressé par ce qui se passe autour de soi, ne pas avoir les mêmes idées et ne pas se comprendre ». La solitude ne se résume pas au manque de lien social. Elle en est, en quelque sorte, la doublure. Paradoxalement, ces deux faces du lien et solitude, c'est ça les deux faces, le lien et la solitude, recèlent un danger analogue, un risque pour l'intégrité du moi-sujet. D'un côté, l'absorption dans l'autre, de l'autre, la perte de soi dans l'absence de l'autre. Contrairement aux apparences courantes, les liens sociaux ne sont pas une condition nécessaire et suffisante pour l'équilibre et la santé du moi, mais une condition indispensable et insuffisante. Ce que l'on voit ressurgir au plus profond du sentiment de solitude, c'est une dynamique primitive qui se joue dans la période immédiatement postnatale, quand le nouveau-né, ou la nouvelle-née, au sortir de son expulsion, est plongé dans un univers dont il ne peut rien connaître, mais qui contient sa vie et sa mort. À ce moment, un visage humain, penché sur le berceau, celui de sa mère généralement, ou d'un parent, opère une séduction immédiatement apaisante au sein d'un vide mortel. Donc, elle revient ici à l'invocation rencontrée au début de cette recherche. Le rêve, au sein d'un vécu de solitude, d'une présence humaine, totalement imprécise, muette éventuellement. La séduction maternelle est bien en deçà de la parole, et apaisante elle aussi, restituant une continuité nouvelle au sein d'une rupture. Mais c'est un leurre. Le futur moi du nouveau-né fuit cette absorption. Le jeu s'esquisse, se joue un scénario fusion-défusion, dont l'engramme, une fois imprimé, pourra se rejouer lui-même au cours de l'existence, sous bien des formes possibles, autant qu'inconscientes. Voilà. Lien solitude, fusion défusion. Non, la souffrance n'est pas l'apanage de la solitude, mais, comme nous l'ont dit nos répondantes, heureuses, entre guillemets, elle est le signal d'un déséquilibre dans le système fusion défusion, équilibre de connotation fortement personnelle. Voilà. Pour cet article.
En gros, on ne peut pas faire des grandes conclusions générales sur la solitude.
J'ai l'impression que ce qu'elle dit, c'est que en fait, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on est seul qu'on se sent seul.
On peut se sentir seul,
même quand on est entouré, que ça peut être toujours insuffisant. En tout cas, qu'il y a beaucoup de versions de la solitude selon les personnes.
Ouais, ben moi, pour continuer, je pense qu'il y a des choses qui vont abonder dans ce que tu viens de dire, Anaïs. Moi, quand on a travaillé sur ce thème de la solitude, j'avais envie d'évoquer plusieurs choses, notamment la solitude qu'on peut ressentir quand on est en souffrance psychique. Et ça fait le lien avec cette histoire que même si on est en lien, on se sent appartenir à une communauté, on peut se sentir vraiment hyper seul, malgré les témoignages de liens, d'affection, d'amour des autres, parce que la souffrance psychique isole. Et voilà, moi, par exemple, j'ai déjà traversé des moments de solitude immense, extrême, en étant pour autant parmi les autres. Et j'y reviendrai parce que ça va faire le lien avec une interview dont je vais vous passer un extrait. Et voilà. Et donc, pour continuer, moi, j'avais envie de passer justement un coup de gueule sur la solitude, ou plutôt l'isolement, en fait, on devrait dire, des personnes âgées, des vieilles et des vieux. En ce moment, je suis assez affectée par ça et je me demande, mais qu'est-ce que notre société fait aux vieux et aux vieilles? Surtout quand elle est subie. Je me dis, il y a des personnes âgées qui vivent dans nos villages, par exemple, ou dans nos villes, et qui subissent cette solitude, qui sont là, juste à côté de nous, mais pas réellement parmi nous. Ils et elles, ils sont dans des maisons, dans des appartements devant lesquels on passe. Moi, en ce moment, grâce à un projet que je mène pour la radio, pour Radio Royan, moi, je rentre dans ces maisons, ici dans le Royan et dans le Vercors, avec le prétexte de faire des entretiens avec elles et eux. Et ça me donne l'occasion de rentrer dans ces maisons, derrière ces rideaux et ces volets devant lesquels je passais avant, mais je me demandais jamais qui vivait là. Et du coup, je découvre des personnes différentes, variées, mais ce qu'elles ont de commun, qu'elles ont en commun, c'est le sentiment qu'elles n'ont plus vraiment de place parmi nous, la société, les actifs et les actives, ou en tout cas plus la place qu'elles avaient avant. Alors, je pense à l'une d'entre elles que j'ai rencontrée dans un hameau proche de Saint-Martin-en-Vercors l'autre jour et qui me disait « Avant, j'étais au centre du village. Maintenant, je connais plus personne et plus personne ne me connaît. » Bon, il y a aussi une histoire de classe là-dedans parce que elle est plutôt précaire. Elle a travaillé toute sa vie dans ce village. Elle est née et elle vit toujours. Elle a bientôt 90 ans. Et il y a les gens de la ville qui sont venus s'installer là, qui ont acheté des maisons avec des moyens et des attentes différentes dans les modes de vie. Et après cet entretien avec elle, moi j'étais hyper touchée et je me suis dit encore plus que, bon, c'est pas la première fois que je me dis ça, mais qu'est-ce qu'on fait à nos vieux et à nos vieilles, comment on les laisse de côté, pourquoi est-ce qu'on crée ça, pourquoi est-ce que rien n'est pensé pour que cette dame ait une place parmi nous, et parce que elle disait très clairement qu'elle aimait ça, en fait, discuter, parler de ce qu'elle a vécu, parler de ce qui encore la fait vivre aujourd'hui, ce qui la touche. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de se rencontrer? Ça me fait penser à d'autres femmes que j'ai rencontrées plutôt ici dans le Royan, qui disent ne plus côtoyer grand monde, qu'elles ont envie du lien, mais qu'elles ne savent pas trop comment faire pour le trouver, à part le club des anciens, mais ça leur convient pas vraiment. Parce que ça répond en partie à une envie de pas être seule et à la fois ce qui est fait et pas toujours. Je vais pas faire de généralité parce qu'il y en a à qui ça convient, mais en tout cas certaines ça leur convient pas. Et je pense à l'une d'elles qui m'a dit qui a 95 ans et qui m'a dit que ce dont elle rêve aujourd'hui, c'est que quelqu'un vienne tous les jours lui tenir la main pour faire une petite sortie devant chez elle. Il y a une rue qui est plate comme ça devant chez elle, toute droite, et elle aime bien pouvoir faire l'aller-retour dans cette rue. Et ça me touche aussi. Ça prend un quart d'heure cette sortie. Et pourquoi, je me suis demandé, mais pourquoi moi j'ai pas un quart d'heure pour aller me promener avec Odette, lui permettre de prendre l'air, de discuter de tout et de rien avec un autre être humain? Pourquoi est-ce que je mets pas ça dans priorité dans mon planning? Pourquoi est-ce qu'on met pas un planning collectif en place où on se relayerait pour aller faire quelques pas avec Odette devant chez elle? Parce que pour nous c'est pas grand chose, et pour elle ce serait la seule sortie et la seule interaction qu'elle aurait dans la journée. Pourquoi ma vie, elle est toujours trop rapide ou trop effrénée pour que chaque fois quand je passe devant chez elle, je me dise que j'ai pas le temps, que j'ai pas l'état émotionnel, que je vais pas m'arrêter cette fois-ci aujourd'hui, et que, alors que je sais que peut-être elle, ça ferait beaucoup. Et du coup, voilà, je me dis, quand je côtoie ces personnes âgées, je me dis, mais ça me rend en fait hyper triste. Ça me rend en colère, mais surtout hyper triste de pourquoi est-ce que je prends pas ces 15 minutes pour faire cette balade-là, mais aussi toute autre chose. Et je sais qu'on arrive à le faire quand il s'agit de prendre soin de nos amis, par exemple, ou de nos amis qui sont empêchés, ou alors qui ont, je sais pas, qui viennent d'accoucher, ou qui ont quelque chose qui va pas dans leur vie, on le fait, ça. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait pas pour Odette? Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit aussi qu'elles aimaient ce retrait du monde, que ça leur allait parce qu'elles sont plus fatiguées et plus lentes et que ça leur convient. Mais d'autres, elles voient plus trop le sens de la vie s'il y a plus de lien. Et moi, ça m'a fait penser à des moments où justement j'étais en grande détresse et en grande souffrance psychique et je me disais ça, je me disais à quoi ça sert la vie si c'est pas pour être en lien. Voilà, ça me fait penser à ça. Et pour continuer, j'ai envie de passer un extrait d'une interview que j'ai fait avec Isabelle Concessi, qui était directrice ici du centre social à Saint-Jean-en-Royans et qui maintenant est directrice d'une association qui s'appelle Recherche et Rencontres à Grenoble, qui gère un centre de lutte contre l'isolement et la prévention du suicide. Dans le cadre, en ce moment, il y a un printemps mortel qui se passe sur notre territoire, où on parle de la mort sous toutes ses formes. Et donc, du coup, pour parler du suicide, je l'ai interviewé. Et d'ailleurs, si vous voulez aller sur notre site internet radioroyan.fr, il y a une page dédiée à tout plein de choses enregistrées sur cette question de la mort. Et hors micro, elle me disait que la catégorie la plus sujette au suicide, alors on pourrait se dire c'est les 15-25 ans par exemple, je sais pas si c'est vous ce que vous vous dites un peu spontanément, on se dit ah oui tiens, le taux de suicide le plus élevé. Enfin en tout cas moi j'avais cette représentation en me disant c'est les jeunes LGBT notamment. Mais en fait, la catégorie de la population qui se suicide le plus, ce sont les personnes âgées. ça me l'a dit hors micro, mais je vous le dis. Et voilà. Et donc, du coup, je l'ai interviewée sur cette question. Elle, elle fait le lien dans ce centre de recherche et de rencontre entre l'isolement, le sentiment de, je disais, la souffrance psychique isole. Donc, entre l'isolement et la volonté de mettre fin à ses jours. Voilà, on écoute cet extrait d'interview.
Mon ami est parti. Elle est partie pour toujours. Mais moi je suis en vie. Fais battre ton tambour. Fais-le bouger ce corps. Donne-lui du bonheur. Que demain je danse encore. Que je n'ai plus peur. Fais battre ton tambour.
Alors, tu te retrouves à brasser les questions d'isolement et de prévention du suicide un peu dans ton quotidien. Et on va prendre le temps de dérouler un peu tout ça, puisque déjà, on peut s'arrêter sur le terme de cette association, donc l'association Recherche et Rencontre, qui gère ce centre de lutte contre l'isolement et la prévention du suicide. Et en préparant cette interview, tu me disais que c'était dans le bon ordre, finalement, cette appellation.
Oui, complètement. C'est vraiment dans le bon ordre, c'est-à-dire que c'est un parcours, malheureusement, c'est-à-dire que la lutte contre l'isolement vient avant la prévention du suicide, et non l'inverse. Ça ne pourrait être un centre de prévention du suicide et de lutte contre l'isolement, simplement parce qu'on se rend compte que ce sont des phénomènes d'isolement qui vont générer, dans la majeure partie des cas de figure, la volonté de mettre fin à sa vie.
Mais du coup, si on revient sur cette question de l'isolement, est-ce que donc vous constatez que la souffrance psychique est telle que la personne s'isole ? Parce qu'on peut être aussi en grande souffrance psychique et garder quand même des liens sociaux, non ?
C'est malheureusement un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on va se trouver en situation d'isolement, qui va être provoquée par différentes choses. Voilà, c'est soit parce qu'on ne rentre pas dans une forme de norme sociale, soit c'est parce que il s'est passé quelque chose de terrible dans sa vie. Mais voilà, il y a plusieurs phénomènes qui vont faire que de l'isolement va se générer autour d'une personne. Et en fait, cet isolement vécu va s'ancrer. Et du coup, la personne va être dans l'incapacité de sortir de cet isolement seule. Et finalement, c'est le seul espace, cet isolement, dans lequel elle va finir par se trouver en sécurité. Mais pour autant, c'est aussi l'espace qui la broie et qui la fait mourir à petit feu, parce que nous sommes des animaux sociaux, des êtres sociaux, et qu'on ne peut pas vivre seul ou difficilement, à quelques exceptions près certainement. Mais donc, on a besoin de l'autre, de cette altérité. Et lorsque ça n'existe plus, petit à petit, la personne devient dans l'incapacité de générer du lien social.
Est-ce que tu as l'impression que c'est une question plus contemporaine, liée à nos modes de vie plus individualistes, la manière dont la société se gère aujourd'hui, et qu'il y a peut-être moins de, je sais pas, de lieux de rencontres qu'à une autre époque, je sais pas.
Ouais. Oui. Je partage tout ce que tu viens de dire, et oui, pour avoir lu aussi des livres rédigés par les cofondatrices, c'était deux femmes, les cofondatrices de ces associations. C'est exactement ce qu'elles avaient identifié. C'est très expérimental, hein, ce qu'elles ont mis en œuvre. Personne ne s'était soucié, en fait, du lien entre suicide et lien social avant qu'elles ne travaillent sur ce sujet. Et ça s'appelle Recherche et Rencontre, parce qu'elles ont fait tout ce travail avec des chercheurs en sciences humaines, en sociologie et sur un volet éducatif. Donc c'est encore une émanation de l'éducation populaire, hein, ces associations. Et donc elles précisent bien dans leurs écrits que, en fait, c'est l'évolution de notre société. Et il me semble, si je l'ai lu correctement, qu'elle met aussi le doigt sur son urbanisation, le fait que les campagnes se soient vidées, c'est dans ces périodes-là, hein, c'est donc au moment de l'industrialisation et où les exactement les campagnes se sont vidées, les villes se sont remplies et finalement le fait d'être entouré de énormément de monde a généré beaucoup d'isolement. Et elles mettent aussi en parallèle le fait que commençait à se développer une société éminemment compétitive où en fait il faut tout le temps faire ses preuves, se comparer à, enfin cette notion de compétition a été aussi très prégnante dans ces phénomènes d'isolement qu'elles ont identifiés. Et donc du coup qu'on retrouve à la fois à la campagne puisque les gens se sont retrouvés isolés, y compris géographiquement à la campagne, et se sont aussi retrouvés isolés à la ville parce qu'entourés de tout un tas de personnes qu'elles ne connaissaient pas et avec la nécessité de faire ses preuves.
Donc d'un point de vue sociologique ou même philosophique, en fait, notre modernité, empreinte de libéralisme et de compétitivité, hein, comme tu le dis, génère de l'isolement et du coup de la souffrance.
Oh, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, notre société génère beaucoup, beaucoup de souffrance, oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2025 est l'année de la santé mentale. Et j'ai tendance à dire partout où je vais que, bien évidemment, on va tous très, très bien. Toi, moi, personne n'a de problème. Encore moins de problèmes de santé mentale. Ça reste très tabou. Mais pour autant, je crois que on a tous des fragilités qui sont liées à la société dans laquelle on vit et qui fait que la moindre petite étincelle peut très vite nous précipiter dans des formes de dépression qui nécessitent vraiment qu'on se questionne sur notre santé mentale et qu'on ne laisse pas ça de côté en faisant comme si tout allait bien.
Donc c'était un extrait de cette interview avec Isabelle Concessi et je voulais vous dire qu'elle est dans son intégralité, elle dure 45 minutes sur le site de radioroyan.fr, sur la page dédiée au printemps mortel, sur les rendez-vous mortels qui sont en ce moment sur nos ondes.
Vous êtes toujours sur Radio Royan Vercors 93 FM, vous écoutez l'éclat des noctules et maintenant on va s'écouter une petite musique, je vous fais un petit trigger warning ou même pas, mais enfin juste pour vous dire qu'à un moment elle dit une insulte plutôt phobe que nous ne cautionnons pas, mais la musique étant bien, vous allez quand même l'écouter. Il s'agit de la chanson La Solitude de Safia Bamet-Schwartz. Et à tout à l'heure.
Allô ? Ça va ou quoi ? Sérieux ? Non. Putain, faut que je te raconte, la dernière fois, je suis rentrée chez moi, comme d'hab, chercher mes clés, après avoir pris l'ascenseur, et là.
Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi, partout elle me fait escorte, elle est revenue, elle est là, l'arnifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas, la guerre ce que le diable emporte, elle est revenue. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer, elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La guerre seule nous ferait même l'hiver en plein cœur l'été, dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder, allez va t'emporter ailleurs, ta triste gueule de l'ennui. Le coup du malheur. Google Map-moi voir si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches. 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 Je me souviens de printemps. Je veux me payer des nuits blanches. Un cœur qui bat. Elle m'a répondu.
Elle a dit ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont morts, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes faux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Bien c'est fini maintenant. Depuis elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches et elle se couche à mes genoux. Partout elle me fait escorte et elle m'attend devant ma porte. Les revenus, elle est là, la solitude, cette grosse pute de solitude. Je veux encore rouler des hanches, 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 je veux encore rouler des hanches. Je me souviens de printemps, je veux me payer des nuits blanches, un cœur qui bat à cœur battant. Je veux encore rouler des hanches, je me souviens de printemps, je veux me payer des nuits blanches, un cœur qui bat à cœur battant.
Voilà, maintenant je voulais vous faire écouter une petite conversation que j'ai eue avec mon amie Nina, qui est bergère. Les bergères, ça passe quand même beaucoup de temps seule dans l'alpage. Du coup, je me suis dit, tiens donc, est-ce que les bergères aiment la solitude? Et voilà ce qu'elle a répondu.
Je suis une bergère qui n'aime pas du tout la solitude et qui a vraiment du mal à la supporter. Alors, première question, c'est quoi la solitude pour toi?
T'es super préparée.
Hein?
Alors.
Non, c'est pas... Ouais. On peut faire autre chose. Si ça t'inspire pas, on essaye autre chose.
Ah ouais, c'est quoi? On va dans le deep, là. Direct.
Est-ce que tu peux me décrire où est-ce que tu habites l'été quand tu travailles?
Je suis en alpage, du coup en montagne, sur une montagne entre 1006 et 3000 à peu près mètres d'altitude. Et du coup, je suis sur cet alpage que je vais refaire plutôt dans une zone semi-touristique, mais avec des zones vraiment assez. Des quartiers un petit peu reculés, où c'est moins un passage pour les randonneurs. Et du coup, je change de quartier comme ça au moins 5 fois dans la saison. Donc je prends toutes mes affaires en sac à dos et je me change de cabane avec tout le troupeau et avec ma collègue avec qui je garde. On est en binôme.
Est-ce que tu te sens seule parfois en alpage?
Oui. Ma réponse est oui, sans hésitation.
Ah, ça me fait plaisir, tu me réponds oui.
Sinon, t'allais te dire, pourquoi cette interview? Non, là, c'est assez clair que c'est un moment où je me sens seule. Et d'ailleurs, des moments de densité, justement, comme je disais, où je me sens seule, mais au milieu de montagnes magnifiques, avec quand même plein d'autres... êtres vivants autour, mais très centrés sur moi. Et les moments où, par exemple, c'est un petit peu frité avec ma binôme, que ça va pas, que là, je suis un peu submergée d'émotions. Alors là, c'est désastre. Là, c'est un moment de solitude où j'ai plus beaucoup de ressources parce que j'ai peu de gens autour aussi pour parler, pour... essayer de comprendre ce qui m'arrive, ce qui me traverse, les émotions qui m'habitent. Et du coup, là, c'est plus un sentiment de solitude difficile à gérer parce que j'ai pas de soutien. Et j'en trouve pas. Enfin, c'est comme si j'étais débordée par la solitude et par mes émotions, en fait, derrière. Et souvent, quand même, la solitude, c'est que ça correspond pour moi à un besoin d'être avec des gens. Alors, du coup, parfois, je me mets au bord d'un chemin, comme ça.
de randonneur, puis j'attends qu'il passe. J'essaie de parler un petit peu avec les gens.
Mmh. Et ça marche ?
Ben, j'ai un beau chien blanc. Du coup, déjà, il y a ça. Ça les attire, les gens. Puis s'ils n'aiment pas les chiens blancs, ils me parlent aussi. Parce que je suis là avec un grand sourire en disant « Bonjour !» Ça se passe bien, la montée, tout ça. Ça, c'est le moment de désespoir un peu où j'ai vraiment envie de parler à n'importe qui. Mmh. Et c'est fou parce que du coup, n'importe quel contact à ce moment-là, avec n'importe qui, prend une ampleur incroyable dans ma journée, voire sur les jours suivants, parce que ça a été parmi mes seules interactions, hormis avec ma collègue. Si elle est là, mais alors, si elle n'est pas là et que je garde, par exemple, pendant une semaine les brebis, que je suis seule avec... Toujours avec, hein, enfin, avec mes chiens, avec les brebis, tout ça. Là, c'est lourd. Et du coup, bah, si les interactions se passent bien, parce que je vais essayer de rompre cette solitude, moi, je tiens pas. Hein. Du coup, je vais aller chercher donc, les touristes. Si ça se passe bien, du coup, je vais... Je sais pas, ça va me porter, ça va m'alléger. Et alors, par contre, si la personne qui passe commence à traverser au milieu du troupeau, se prendre en selfie et casser tout le travail que je suis en train de faire, et qu'en plus je me sens seule, alors là, et qu'en plus on a une interaction, moi peut-être je vais lui dire bah, est-ce que vous pouvez vous décaler s'il vous plaît, ou contourner le troupeau s'il vous plaît, et que cette personne me dit on n'est plus chez soi en montagne, tout ça, enfin ce genre de réplique banale. Et ben là, ça va me bouleverser, quoi. Parce que j'aurais pas été nourrie ou équilibrée par d'autres interactions. Donc, comme tu peux le comprendre, je suis une bergère qui n'aime pas du tout la solitude et qui a vraiment du mal à la supporter. Du coup, qui va mettre plein de choses en œuvre pour en sortir. Par contre, il y a une chose qui m'aide aussi. Quand vraiment, il n'y a pas de chaland, il n'y a pas de réseau, et il n'y a pas de collègues, et il n'y a pas de réseau téléphonique pour geeker sur Internet ou appeler les amis, parce que ça, c'est vraiment important. Moi, ça a été une grande aide. Et je me rappelle d'une phrase que j'avais lue dans un bouquin qui était de dire, en fait, c'est très auto-centré. Même anthropocentré, de dire... que nous, en tant qu'humains, au milieu d'une montagne à 3000 mètres d'altitude, en fait, on est au milieu de rien et qu'on est dans cette superbe solitude, tu vois, où tu vois le philosophe avec les cheveux dans le vent, sa petite toge-là, comme ça, qui virevolte.
Le romantique, quoi.
Voilà, le romantique, le philosophe romantique qui absorbe la... le vide et la beauté de la nature, voilà. Et ben ça, a priori, on pourrait voir ça comme du gros bullshit romantique, décalé, anthropocentré, parce que en fait, il y a énormément de vie et de gens qui habitent les sentiers, hors sentiers, les arbres, les rochers, tout ça. Il y a plein d'êtres vivants, et du coup, moi, ça me rassure même de me dire que je suis vraiment pas seule, qu'on est des milliards là, juste sur quelques mètres carrés. Et du coup, bah, ça m'arrive de leur parler, c'est vrai. Quand vraiment, là, je suis vraiment... Là, c'est la fin de saison.
T'as déjà parlé à un escargot ou un insecte?
Ah ouais. Ouais, un insecte, ouais, qui traverse la route, et je lui dis, bah, je t'en prie, priorité à droite, enfin, des trucs à la con. Faut que je me fasse rire, faut que, ouais, je trouve des raisons de rire de moi et de ce sentiment aussi, et de créer des personnages autour de moi à qui je peux m'adresser. Voilà. Il y a les chiens, bien sûr, ça aide beaucoup, beaucoup. Je leur parle aussi plus, quoi, quand il n'y a pas trop d'humains. Les brebis aussi. Mais en fait, c'est comme si je m'attendais pas à une réponse. Vraiment, je me parle à moi-même. Ça va très vite.
Voilà. Ça veut dire quoi, ça va très vite?
Pour moi, ça allait très vite de parler sans attendre de réponse des êtres à qui je m'adresse. J'ai décidé de vivre seule il y a quelques années et j'étais assez curieuse de savoir si j'allais bien m'entendre avec moi-même. Et il se trouve que oui. Et du coup, c'est plutôt un gros plaisir d'être seule chez moi. Et oui, c'est comme si ça ouvrait plein de possibilités de faire des choses qui impliquent pas d'être de l'effort en fonction des autres, quoi. Donc le fait d'être seule, mais c'est pas comme le sentiment de solitude, c'est être seule. Franchement, c'est très agréable dans poursuivre mon fil, quoi, d'envie, de désir de faire, je sais pas, un moment de laisser tout par terre, et puis de devenir, comme on dit quand on a envie de tout nettoyer tout le temps, là, maniaque, d'un coup comme ça, puis en fait de lâcher le truc au bout d'une journée, et puis ensuite de danser au milieu du salon. Je sais pas. Oui. Moi, ça me ressource. C'est parce que je me sens dépendante des gens que j'essaie de chercher aussi, de faire toutes ces démarches un petit peu pour être moins dépendante de mon lien aux personnes, en me créant des espaces où je suis seule et il faut que je m'adapte à moi-même, enfin, et pas que aux autres. Enfin, que je me prenne en compte plus et que j'arrive à mieux découvrir ce dont j'ai besoin moi. Et du coup, j'ai l'impression que maintenant, dans les groupes, je m'écoute plus parce que j'ai tous ces moments où je suis seule et où je sais ce qui me fait plaisir le soir, à quelle heure j'ai envie de manger, tout ça. Et que cette dépendance aux gens, je trouve que du coup, bah, elle me plombe un peu aussi à des moments parce que je m'écoute plus et que je dépasse mes limites. Du coup, le métier de bergère, moi, franchement, c'est une des principales raisons, c'est d'essayer de me soigner de ça et d'être en interaction avec d'autres choses que des humains. Et du coup, de peut-être me sentir moins seule aussi et moins dépendante, mais toujours très en lien, mais avec des animaux, quoi, d'autres animaux que les humains.
On vient d'écouter cette interview avec Nina, qui est bergère. Et pour continuer, on vous propose une chanson qui s'appelle « Aux solitudes », qui est sur l'album de « Birds on a Wire » de Rosemary Stanley et Dom La Nena, qui est une très belle chanson et que moi, j'ai envie de dédicacer à mon amie Émilie, qui me l'a suggérée.
My sweetest choice, oh solitude, oh solitude, my sweetest, sweetest choice, places devoted to the night, remote from tumult and from noise, a human restless thought's delight. Oh, solitude,
captivity of time, and which all ages have revered, to look today as fresh and green, to look today as fresh and green, as wonder beauty's first was seen.
Vous avez donc écouté Au Solitude de Dom La Nena et
Rosemary Stanley.
Rosemary Stanley. Et maintenant, vous allez écouter Chico.
Et donc, on va parler d'une personne qui était surnommée Solitude, qui s'est surnommée Solitude. De ce que j'ai pu en trouver, c'est une personne qui s'appelait Rosalie, qui est née en Guadeloupe vers 1772. Qui a été la fille d'une esclave déportée qui s'appelait Bayan Goumey. Y a une gobeille, sa maman, donc elle s'est fait violer par un marin sur le bateau qui l'a déporté aux Antilles. Et donc sa maman s'est enfuie à ses 8 ans environ. Et donc Rosalie, elle devient esclave et donc elle sera domestique. Elle reste domestique pendant plus de 20 ans. Et donc esclave avec toute la maltraitance et la violence et l'exploitation en Guadeloupe. Elle est connue pour s'appeler la mulâtresse Solitude, et la mulâtresse, c'est un nom qui vient du vocabulaire colonial qui sert à désigner une personne métisse. Du coup, c'est un terme, une insulte, quoi, méprisante, qui est utilisée par les négriers et les colons pour parler de personnes issues de, des personnes africaines et européennes. Et c'est perçu comme contre nature, méprisable, et donc ça vient du nom mulet qui désigne des animaux stériles. Donc, mais elle est, voilà, aujourd'hui ça a été retourné avec, en fait, la mulâtresse Solitude, elle est devenue un symbole de la résistance à l'esclavage. C'était donc au moment de la Révolution française, dans les années 1790, il y a des émeutes en Guadeloupe. Il y a l'exécution du roi Louis XVI, la terreur se répercute, les membres du clergé et des familles de planteurs sont exécutés ou s'enfuient. Des esclaves désertent, ils forment des communautés de marrons. Et le terme marron, ça vient des Antilles et c'est employé pour encore un vocabulaire raciste et qui vient de la culture coloniale, qui désigne des animaux apprivoisés qui s'enfuient et qui redeviennent sauvages. Et du coup, les colons, pareil, ils ont appelé les esclaves qui s'étaient enfuis et qui deviennent des hommes libres, marrons. Et donc, dans cette ambiance d'émeute, 4 ans après, en 1794, la Convention abolit l'esclavage. Et le temps que la nouvelle parvienne en Guadeloupe, l'île a été colonisée par les Anglais. Donc ça fait du flou sur cette reconnaissance-là. Donc il y a beaucoup d'anciens esclaves qui se regroupent, qui luttent contre les Anglais. Et Solitude, elle rejoint donc une communauté de marrons à Goyave. C'est une communauté qui est dirigée par une personne qui s'appelle Sanga, et dans laquelle elle est intégrée malgré le fait qu'elle est métisse. Et quelques années après encore, petit saut dans l'histoire, Bonaparte rétablit l'esclavage. Et donc, charge un type, un général, de mater tous rébellion, remettre les anciennes esclaves au fer. Et en 1800 et quelques, il y a une armée qui déboule et qui essaye de réarrêter toutes les personnes qui ont acquis leurs droits là-bas. Et il y a donc une résistance qui s'organise autour d'un colonel anti-esclavagiste qui s'appelle Delgrès, qui lance un appel à résistance et qui dit, entre guillemets, à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et donc, il y a une bataille à ce moment-là, qui est connue, qui est une bataille où il y a un siège assez violent, et ça se termine pas bien, ce siège-là, parce qu'ils sont en train de perdre, les résistants sont en train de perdre, et donc, Delgrès, il décide de truffer le bâtiment d'explosifs. Ça dure 18 jours, c'est complètement inégal. Il y a 4000 soldats d'un côté et 1000 résistants. Et donc, il y a une autre femme qui est connue pendant cette bataille. Donc, Solitude participe à cette bataille. Et Marthe Rose aussi participe à cette bataille. Certainement d'autres femmes plus anonymes. Et donc, le bâtiment finit par être explosé. Les 300 survivants retranchés meurent. Et il y a vraiment très, très peu de survivants. Et finalement, Solitude, elle est... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'était qu'elle était enceinte pendant tout ce temps-là, pendant tout son combat, au moment où, en fait, où elle rejoint la communauté de Sanga avec les marrons. Elle rencontre un compagnon et elle tombe enceinte et elle lutte enceinte. Et elle est faite prisonnière parce que les colons veulent récupérer son fils pour le mettre en esclavage. Donc, elle n'est pas tout de suite exécutée. Elle est exécutée le lendemain de son... un accouchement. Voilà. Et elle est aujourd'hui, il y a pas mal de statues d'elle qui est représentée avec son ventre enceinte et donc c'est devenu un symbole de la lutte pour le droit, de la lutte contre l'esclavage et contre le racisme et contre l'exploitation. Voilà. Donc j'avais envie de faire un petit détour, voilà, par Solitude à l'occasion de cette émission. Donc on va écouter en hommage, on va écouter un groupe qui s'appelle XPK, qui est le nouveau groupe de Kazé. Et XPK, c'est une passerelle entre la Guadeloupe et la Martinique, avec des parcours similaires autour du thème de la négritude, dans ce qu'elle peut proposer de plus large. C'est de la musique Gouoka, qui est née pendant l'esclavage aux Antilles et qui tire ses origines de la musique africaine, chantée et jouée par les esclaves des anciennes plantations. Depuis 4 siècles, le tambour K accompagne les soirées, qui s'appellent des soirées Lewos, et les revendications aussi des Antillais et des Antillaises. Donc il y a Kazé, qui est fille de Martiniquais, née et élevée en France, qui a choisi le rap pour s'approprier sa culture antillaise et dénoncer les maux de sa génération. Il y a Célia Wa, qui est flûtiste et chanteuse guadeloupéenne antillaise, qui est une artiste engagée, remarquée par la nouvelle génération, Soulenka, et qui est leaduse de projets dans lesquels elle exergue les maux de notre société. Et il y a le batteur-percussionniste virtuose Sonny Troupé, qui est compositeur guadeloupéen, et donc qui joue principalement du tambour K, qui est son premier instrument. Et il y a d'autres musiciens d'exception qui viennent de Guadeloupe et de Martinique, comme Didier Davidas au clavier, Stéphane Castry à la basse et Olivier Juste au tambour K aussi. Voilà, et donc ça devient une zone grise d'expérimentation musicale où tout devient possible. Je vous laisse écouter le morceau qui s'appelle Yumene Nula de XPK.
Sans en atrocité qu'on nous capote, menez-nous là. Pour faire pour nous et ça quitter là pour nous, c'est nous choisir d'être là. Menez-nous là. Non, libérer l'esprit en nous, assumer l'histoire en nous, réaliser combien fois dans cette énigme on légué nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'histoire en nous, garder doux sans on passe, nous connaître valeur en nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'histoire en nous, réaliser combien fois dans cette énigme on légué nous. Libérer l'esprit en nous, assumer l'histoire en nous, garder doux sans on
passe, nous connaître valeur en nous.
Captif.
400 ans libres, 150, inutile que je détaille tous les comptes aujourd'hui, du déséquilibre et des années qui manquent, que mon île bien-aimée voit ses plaies endormies, l'esclavage ça marque, et pour ceux qui débarquent et font vaguement semblant de n'y comprendre rien, il y a encore peu de temps, des descendants de monarques en Guadeloupe, Martinique, ont fait lâcher les chiens, oui, je rabâche les corvées et la cravache, que les ignorants sachent que c'est loin d'aller mieux, je revois en flash, ceux qui pensaient que tâche la couleur de ma peau voulait toucher mes cheveux. Je réclame pour le rhum une complète gratuité et la somme majorée du taf exécuté. Et pendant qu'on y est, pensez à rajouter un siècle d'annuité et un de RTT.
Chaque année, de l'esprit en nous a jamais. Toujours oublié, valider qu'à y mener. Y mener nous là. Y mener nous là. Temps pour qu'on passe. 170 ans de casse. J'ai 400 ans d'atrocité qu'on nous capote. Et menez-nous là. Et menez-nous là. Sang va couler. Violence des mains sera tout capoté. Et j'en peux faire pour nous et ça qui t'est là pour nous c'est de choisir d'être là. Ah. Nous menons nous là. Non n'est pas. Libérer l'esprit en nous,
assumer
les sons nous,
réaliser
combien fois dans cet enigma on l'aiguille nous.
Libérer
l'esprit en nous,
assumer
les sons nous,
garder
devant sans on passe nous connaître valeur en nous.
Libérer
l'esprit en nous,
assumer
les sons nous,
réaliser
combien fois dans cet enigma on l'aiguille nous.
Libérer
l'esprit en nous,
assumer
les sons nous,
garder devant sans
on passe nous connaître valeur en nous.
Blablabla, et voilà.
Ouais, ouais.
Maï et dans voilà, la place. Et maï, blablabla.
Bon, c'est l'ouverture des micros pour faire peut-être quelques petits rebonds de choses qu'on n'a pas encore eu l'occasion de dire. Moi, j'avais envie de dire que quand même, pour moi, je sais pas pour vous, mais c'est un travail de réussir à être bien seul. Et j'ai l'impression que quand la solitude est choisie, ça peut être vraiment un espace de ressourcement dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, qui va vite et tout ça, et que c'est beau. En tout cas, moi, il y a des moments où j'ai l'impression que ça peut être vraiment beau quand on se sent bien seul, quand j'y arrive. Ça m'a fait penser à Une chambre à soi, évidemment, de Virginia Woolf, d'avoir ces moments à soi.
Non, ouais.
Et que du coup, aussi, je me suis dit, ah oui, c'est quand je sens que les liens sont suffisamment forts à l'intérieur de moi, je sens les autres assez présents, et du coup, ça fait que je peux être bien seul, même si je suis pas avec les autres, quoi. Et voilà, j'arrête pas d'échouer, mais des fois, j'y arrive. Et je me disais aussi, ça me faisait penser à des trucs que tu disais, Chico, de est-ce que si j'étais plus connectée, ou que Nina le dit dans l'interview, si j'étais plus capable d'être reliée à ce qui m'entoure, qui soit non humain, est-ce que je serais pas un peu mieux et je me sentirais des fois moins seule?
Ça me fait penser que un moment, je suis partie marcher, entre guillemets, seule pendant une semaine et tout le monde disait « Ah ouah, t'es partie seule et tout ». Mais en fait, j'étais là. Mais en fait, je suis pas du tout partie seule. Je suis partie avec Gaïa, l'ânesse. Et j'étais pas du tout seule, quoi. Je sais pas, j'étais vraiment...
Tu te
sentais
accompagnée.
Beaucoup de choses entre nous. Ah bah oui, elle portait toutes mes affaires.
Moi, la plupart du temps, quand je suis toute seule, j'en chie. Mais après, ça fait que je suis capable d'être avec d'autres. Enfin, j'ai l'impression que... moi, j'ai une histoire de capacité et du coup de...
je suis opérationnelle un peu socialement parlant, à condition d'avoir un certain temps où je suis seule. Et ce temps-là, il est vraiment pas tout le temps agréable pour moi. Mais c'est des temps où je peux me trier, errer dans tous les... Enfin, être et dans mes rythmes qui sont propres à moi, qui sont pas forcément structurés. Enfin, que en fait, ça me fait du bien de pas avoir à m'accorder à d'autres rythmes. Ça me fait du bien d'avoir des temps où c'est rempli d'une manière imprévisible et c'est selon comment je me sens et tout ça. Il y a du temps pour digérer, du temps pour faire des recherches ou pour... Enfin, là, moi, j'aimerais bien, par exemple, organiser ma vie pour passer plus de temps à observer et être avec le vivant dans la montagne ou faire des observations, mais peut-être même pas seule parce que j'aimerais bien être avec des personnes qui m'enseignent. Mais en tout cas, j'ai repéré que ça me faisait vraiment du bien. Mais la solitude en soi, enfin, le fait d'avoir passé plein de temps en tant que seule humaine dans des forêts, dans la montagne, ça a fait que j'ai repéré que être à l'extérieur avec plein d'autres formes de vie, ça c'est des solitudes, une forme de solitude qui soigne, qui me soigne. Et après, la solitude genre toute seule dans mon appart et toutes les stimulations ou les sollicitations des autres humains, elles sont insupportables. Et je suis là en mode ah, laissez-moi tranquille. Et ça, c'est des moments où j'ai vraiment besoin de solitude, mais comme vraiment une nécessité. Bon, bref, voilà quoi.
Mais ça, t'as appris avec le temps à capter, quand tu dis j'ai besoin d'un certain temps de solitude, ce que je disais un peu, ce truc de ressourcement, de refuge, de repli nécessaire. T'as appris avec le temps à capter c'est quoi tes besoins?
Oui, mais c'est pas confortable, tu vois, c'est pas des moments de kiff forcément.
Ouais, c'est ça.
Aussi, c'est des moments, des fois, où je suis dans des états chelous et qui sont pas archi cool. Mais n'empêche qu'après, ça me permet d'être bien. C'est des trucs, des moments à traverser. Et aussi, c'est pas cool parce que des fois, je me mets la pression. Je me mets la pression parce que je suis pas en train de faire ci ou ça. Je me mets la pression parce que... Enfin, c'est aussi des moments où il y a plein d'anxiété qui remonte. Mais je sais pas, le fait d'être seule, ça me permet de les traverser, ces moments.
Et c'est là qu'on vous dit que le titre de l'émission, nous l'avons trouvé. Ça s'appelle « Traverser en solitude ».
C'est vrai que ça fait une heure et demie qu'on essaie de trouver ce titre. C'est bien. On l'a.
Et aussi, je ne sais pas si je peux encore monopoliser le
micro.
Ouais,
vas-y.
Je me disais, par rapport à ce que tu disais au tout début dans l'étude sur la souffrance et même les études neuro, c'est vrai qu'autour de moi, je vois les personnes qui souffrent plus de la solitude, c'est des personnes qui ne sont pas foncièrement seules. Enfin, en fait, qui se sentent... Je vois vraiment qu'elles se sentent seules parce qu'elles ont l'impression que... En fait, j'ai l'impression qu'aussi, elles ne consacrent pas du temps à se comprendre. Ou alors, il y en a certaines. Il y en a une qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Une personne qui se sent hyper seule. Qui m'a dit, en fait, je me sens seule et j'ai l'impression que personne ne me comprend. Parce que moi, je ne consacre pas assez de temps pour me comprendre moi-même. Et c'est des personnes qui sont un peu neurodivergentes, qui peuvent pas se référer à une norme. Ou en tout cas, que la norme, elle les déforme trop et ça fait de la souffrance. Et donc, c'est plus simple de s'isoler. Et c'est vrai qu'à des moments, moi, je me sens impuissante avec des proches à moi qui sentent cette immense solitude et que je sens bien que l'attention et l'amour et la présence, des fois même, elle appuie sur ce fossé qui est ressenti à l'intérieur.
Bah, moi, ça me fait penser, peut-être j'enfonce des portes ouvertes là, mais que en fait la solitude, c'est notre condition humaine immuable. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai pas peur de la mort, par exemple, mais j'ai peur de la solitude. J'ai l'impression que je dompte depuis des années cette histoire de... En fait, on est tout seul, même si on crée des liens, même si on sent les liens forts à l'intérieur de soi, plein de formes d'amour différentes. Qu'en fait, la solitude, bah, c'est un chemin. Enfin, pour moi, c'est un chemin pour l'accepter, quoi. Je sais pas. Oui, c'est un peu tarte à la crème, hein, ce que je dis. C'est évident. En fait, on est toujours tout seul. Quand on souffre, on est seul. Quand on, voilà, quand on vit, on est seul.
Ça fait un petit pont avec la conclusion de l'enquête qui dit justement de ce truc que c'est aussi la. En fait, l'altérité et la se dissocier de l'autre, c'est créer son moi, enfin son jeu, quoi. Être un individu à part entière. Et qu'en même temps, sans cette altérité, on ne peut pas vraiment être
une personne. Enfin, voilà.
Oui, mais du coup, on cherche tout le temps dans les autres à combler peut-être cette peur de la solitude ou quoi, pour pas se confronter trop à ce jeu, justement.
Ou c'est pour se construire aussi, enfin.
Ouais.
Et qu'il y a des va-et-vient, justement, entre.
Ouais.
Oui, et en même temps, cette société, elle construit vraiment. Pas des relations, quoi.
Non.
Et dans l'organisation du temps qui doit être rentabilisée, dans qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui n'est pas valorisé, le nombre de gens qui ne font pas l'effort de se faire comprendre ou comprendre une personne qui ne parle pas leur langue, et c'est hyper fort, quoi, aussi, ou cette difficulté que tu décrivais à aller voir Odette, enfin, il y a vraiment un truc qui chie complètement structurellement, quoi, systémiquement parlant. Et j'avais envie de triper, moi. Du coup, j'ai décidé de parler de la mulâtresse solitude, mais j'avais eu envie de triper sur la perception du monde qu'on a. Et en effet, le fait que même se dire qu'on est tout seul, machin, en fait, on est composé de milliards d'êtres vivants. Même dans notre corps, à l'échelle de notre corps, on a plus de cellules d'autres êtres vivants que de cellules humaines qui nous appartiennent à nous en propre. Et du coup, même la perception qu'on a de l'individu, l'individualité, elle est fuckée par rapport à la réalité, mais on n'arrive pas à décaler de ça, quoi.
Et là, on vous invite à aller réécouter notre émission sur la symbiose microbe, bactérie, je ne sais plus comment s'appelait la suite.
Une petite émission
sur les champignons.
Les microbes, le monde a un tas de microbes.
Ouais, c'est des vulgaires tas de microbes.
Voilà.
Émission où vous comprendrez tout ça.
Du coup, ben moi, les moments où je me suis sentie le plus seule dans ma vie, c'est les moments où je suis arrivée dans un endroit où je parlais peu ou pas bien la langue et où je connaissais pas grand monde. Et du coup, j'avais envie de vous lire un petit texte, un petit témoignage autour de la solitude d'une personne que j'ai rencontrée dans un atelier de français à Saint-Marcellin. C'est un atelier qui accueille du coup des personnes qui s'installent à Saint-Marcellin et qui ne parlent pas ou très peu le français. Et du coup, je vais vous lire ce qu'elle m'a écrit, ce qu'elle a bien voulu partager avec nous sur sa solitude. Lorsque j'ai posé le pied à Saint-Marcellin, petite ville ancienne nichée au cœur des collines verdoyantes de France, j'ai tout de suite ressenti un silence étrange m'envelopper. Ici, tout, les coutumes, les modes de vie, la religion, la langue, m'étaient étrangers. Dès les premiers jours, j'avais l'impression d'être égarée dans un autre monde. Les habitants, avec leurs habitudes, leurs salutations, leurs gestes simples pour eux, étaient pour moi autant d'énigmes. Ils riaient, parlaient gaiement en français, une langue fluide, rapide, chantante, alors que moi, je ne comprenais que quelques mots épars, perdus au milieu d'un flot sonore qui ne m'appartenait pas. Parmi eux, je me sentais petite, invisible. Les sourires bienveillants ne suffisaient pas toujours à effacer ce sentiment d'être en marge d'une vie qui continuait sans moi. Peu à peu, je me suis repliée sur moi-même, craignant de mal m'exprimer, d'être maladroite, d'attirer les regards embarrassés. J'ai fermé mon cœur, marché plus lentement, pesé chacun de mes mots. La maison où je vivais, bien que confortable, me semblait froide et étrangère. Les murs silencieux, les pièces sombres semblaient résonner du vide et de la nostalgie. Souvent, la solitude emplissait l'air et chaque silence me ramenait aux souvenirs de ma famille, à ce chez moi que j'avais laissé derrière moi. À Saint-Marcellin, la solitude n'était pas seulement une distance géographique, c'était une distance dans les gestes, dans les regards, dans les conversations éphémères. C'était être seul au milieu d'une rue animée, seul dans un café chaleureux, seul même autour d'une table partagée. Parfois, cette solitude pesait si lourd que mon cœur se serrait, me rappelant les repas familiaux, les voix familières, les soirées emplies de rire. Pourtant, au fil du temps, cette solitude m'a appris à observer en silence, à apprécier les différences et peu à peu à m'approcher des autres. La solitude à Saint-Marcellin est devenue pour moi un voyage lent mais profond, un chemin vers moi-même, une leçon d'humilité face à un monde immense et une invitation à grandir. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est aussi une invitation à aller vers l'autre, vers les gens qui parlent pas forcément la même langue que nous, pour leur faire un bon accueil. Parce que ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver seul dans un endroit nouveau dont on ignore les codes. Et maintenant, on va écouter une petite musique que cette personne a choisi de partager avec nous. Thank you.
Et voilà, c'est la fin de l'émission. Du coup, on va vous dire au revoir. Et puis, moi, je voulais dire juste un petit mot pour les copines qui ont pas trop apprécié que je vais aller les interviewer sur la solitude, parce que justement, elles se sentent seules, soit parce que elle traverse des moments difficiles de séparation ou de cécité ou de maladie où elles ont traversé. Voilà, donc je pense fort à elle. Et puis, là, le coup de cœur de l'émission qu'on vous propose, c'est Martine, Lilith et les autres, le son de nos solitudes, qui date de 2018. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
Eh bien, merci à Gaëlle pour la technique, désolée pour les petits couacs. Merci à Maë pour ta patience.
Oui, bien joué seul.
De l'ego aussi.
Au revoir à tous.
Ouais. Merci Maë.
Et à toutes, au revoir. Bye bye.
À bientôt.
À bientôt.
On va écouter pour terminer Calamine, Chambre d'écho, un petit son direct, un port du Québec.
Que plus son light, j'ai des news à ma mère, puis elle répond un pouce en l'air. J'ai une cause perdue qui va s'enfoncer plus en light. Je joue les toughs, mais yo, je prends les coups sans light. Je mets des rimes au bout pour que ça fasse pop. Mais c'est juste une autre façon de gérer les catastrophes. C'est du MMA, je comble la dépresse. Chaque fois je me promets que mon repos me presse. Mon enthousiasme, ça fait longtemps qu'il est mort. Ma mauvaise foi s'est levée un matin en mode kill them all. Si je suis pas sur le rock bottom, je dois être sur le peak. Entre les deux, j'ai mis ce beat, fuck it, sur repeat. J'suis en mode sabotage, non c'est pas les Beastie Boys. J'vais pas rester longtemps ici, boy, j'vous avertis ici, boy. La vie c'est juste un mime foutrement absurde. J'ai peur de disparaître avant d'avoir trouvé le cap. Je suis blasé, je sais pas si c'est la cause ou le symptôme. J'ai attrapé le spleen, mais moi le mien un symptôme. Je me sens comme un déchet, puis on partage la même dombe. La planète va sûrement brûler avant que les symptômes. Y'a plus de drones que de vraies étoiles dans le ciel. Puis on enfouit du verre qui sera encore là dans 100 siècles. C'est quoi l'essentiel? Changer le monde, je suis dans le camp du oui. Mais c'est juste trop d'ouvrages, comme quand je voulais vendre du oui. J'évite les gens que tu sais pas s'ils lisent ou s'ils ont juste leur fucking sel au bout des doigts qui fossilisent. J'suis pas mieux, je binge-watch n'importe quoi, c'est plate fuck. Ça enrichit les enfoirés qui ont les plateformes. J'me sens aussi futile qu'une page titre de pick-up. J'suis un bateau qui prend l'eau, puis j'suis trop slow pour écoper. J'fais rien d'utile, je scroll en avoir les yeux secs. Mais j'ai presque fini mon verse, donne-moi deux secs. Je suis sur les applis de dating, mais bientôt j'efface tout. Rien sur le menu m'intéresse, c'est comme au fast-food. C'est-tu mieux d'être seul que d'être avec d'autres? Je sens les rap et McDo, j'ai pas l'impression que ça va être d'autres. Elle aime ma musique, je pense qu'elle est vraiment déçue. Elle dit que je suis rabat-joie pendant qu'elle monte dessus. Elle trouve que je suis bête, elle dit why so serious. Elle préférait le vibe, mes affaires sur Sirius. Anyway, je suis pas si bêche, faudrait qu'elle se dépêche, faut faire du content. Ça bouffe encore plus de temps que de faire des chansons comme telle. L'attention c'est seul thème, puis la musique elle sonne deck. Rabat-joie, ouais fuck them, je ferai jamais les top 10. Acheter des views, moi je trouve trop pas sonnette. C'est peut-être cringe, mais c'est rendu in, je m'en move promotionnel. Puis je me suis fait un TikTok, ouais, je sais pas, c'est la mode. Je te jouerai une petite drop, de retourner pas, c'est la mode. Ils font des jobs de marde avec les patients sur le side. Se demande pourquoi à temps plein, ça pense au suicide. Moi, on m'attend nulle part, tu vois, tu suis à la dégaine. Je traîne encore sur Sainte-Cat, entre Vio puis Ada Degen. Je suis comme un ATM, je fais que distribuer des billes en me faisant croire que c'est pas tout le système qui est débile. T'es mieux d'être ben assis quand les États-Unis votent. Tu dis fuck, c'est comme un salut nazi, c'est univoque. Ils attendent les ristournes, cette poignée de rich dude. Hijack la politique, puis après ils décrissent tout. Ils pensent à court terme, c'est de la fast fashion. Ils essayent de dire des trucs racistes sans que ça fasse facho. Ils aiment tellement les billets verts, ils sont après virer légumes. Je suis végé, mais j'ai des gueules, y'a personne qui les régule. Non, ça répond qu'à leur égo. L'édifice s'écroule, on refait encore la déco. Fuck off, je retourne dans ma chambre d'écho.